Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver ce matin. Nous allons parler de beaucoup de sujets qui touchent la santé en fait ce matin. Je vais vous parler du cancer de la peau parce qu'en lisant certaines statistiques dernièrement, j'ai été vraiment surprise de voir que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas le cancer du poumon qui est encore le cancer le plus courant, c'est pas celui de la prostate ni le cancer du sein, même si on en parle beaucoup de ces deux cancers-là. En fait, le cancer le plus répandu aujourd'hui, la forme la plus courante, c'est le cancer de la peau. Et c'est assez inquiétant parce qu'environ le tiers de tous les nouveaux cas de cancer au Canada sont des cancers de la peau et le taux d'augmentation de ce cancer-là continue de prendre de l'ampleur. On le sait, la peau, là, c'est pas mal l'organe le plus important de notre corps. Ça joue un rôle vital pour nous garder en santé. Puis en vous disant ça, on a tous la même idée, on s'en occupe pas finalement. Hein? On s'en occupe pas de notre peau. La preuve, c'est que par rapport au soleil, on devient fou, en particulier nous Québécois, dès qu'il fait beau, dès qu'il y a des rayons de soleil. Je veux dire, il y a du soleil d'un côté de la rue, tout le monde marche de ce côté-là. Je veux dire, on a un comportement par rapport à la chaleur et au soleil qui est complètement déconnecté de la santé finalement. Et je vous dis ça parce qu'en fait, le taux de cancer de la peau a triplé en 25 ans. Il faut donc être très, très, très prudent. On va y revenir parce qu'il y a une question de changement climatique. Le soleil aujourd'hui est plus puissant et plus dangereux qu'il ne l'a jamais été et ça risque d'empirer. Mais tout ça étant, il y a des impacts à tout ça. Et l'impact, c'est qu'il y a des vies qui sont touchées, comme celle de Mathieu Kerouac qui a été amputé du nez en raison d'un cancer de la peau. On n'y pense pas, mais le cancer de la peau qui touche le visage, ça aussi, c'est en augmentation. Mathieu Kerouac est avec nous. Merci beaucoup d'être là, Mathieu.
Mais ça me fait plaisir, Isabelle.
J'ai eu l'occasion de lire l'article de ma collègue Isabelle Haché de La Presse qui vous avez rencontré. Je trouvais que votre histoire était incroyable. En plus, vous aviez comme un deuxième degré d'humour par rapport à votre situation.
Ben, il faut savoir en rire quand même.
Oui, c'est ça. Vous faites plein d'allégories, genre à vue de nez, néanmoins. C'est d'ailleurs le titre d'un témoignage que vous avez écrit. Vous me disiez avant la pause que ça vous a beaucoup aidé d'écrire votre expérience. Si on l'apprenait depuis le début, vous vous êtes rendu compte en juillet 2016, après un léger saignement en vous mouchant le nez, que vous aviez donc ce problème-là. Mais vous étiez à des lieux de penser que vous alliez découvrir un cancer de la peau. Là.
Ben écoutez, à ce moment-là, j'aurais tendance à vous dire que pour moi, c'était simplement un petit saignement banal, là, comme quelqu'un qui se coupe le bout d'un doigt. Donc, je savais. Et puis, est-ce que j'allais passer 12 heures, peut-être même plus, à l'urgence pour ça? Non. Pas vraiment, d'autant plus qu'on nous dit constamment de ne pas engorger le système de santé. Alors, on se dit, bon, ben regarde, ça va passer, évidemment. Et puis, malheureusement, ça, non seulement ça n'a pas passé, mais ça s'est beaucoup aggravé jusqu'à ce que je reçoive mon diagnostic. Je vais sauter des étapes,
étapes sont quand même m'ont quand même marqué il y a eu beaucoup d'attentes. Vous en parlez d'ailleurs. Il y a eu des rendez-vous d'abord des médecins peu empathiques qui disent bof. Vous savez que vous avez le nez de travers. Vous avez entendu toutes sortes de niaiseries finalement, Mathieu.
Oui, bien évidemment, il y a toujours du meilleur et du pire. Hein? Moi, le cheminement je vous dirais que si j'avais pris le chemin en ligne droite. Les conséquences auraient sans doute été beaucoup moins dommageables dans ma vie.
En ligne droite, c'est-à-dire?
En ligne droite, c'est-à-dire que si je n'avais pas rencontré d'embûches où j'aurais eu plus de facilité, par exemple, à avoir simplement un rendez-vous avec un ORL, déjà là, écoutez, ça a été interminable.
Mais je lisais votre récit, ça a quasiment pris un an.
Ah oui,
entre le moment où vous avez découvert que vous aviez ce saignement de nez puis le moment où vous avez pu voir quelqu'un qui dit « Ah, il faut passer une biopsie ».
Bien, vous savez, au départ, on pourrait mettre ça sur mon compte en me disant, bon, ben regarde, au début, je pensais que ça allait passer. L'automne 2016, je m'étais dit, ça empirait un petit peu. Puis rendu aux fêtes, là, j'ai dit, voyons, ça guérira jamais, tu sais, là. Et puis on m'a simplement parlé de me faire une cautérisation à ce moment-là. Et là, j'ai dit, ben je vais aller à la clinique sans rendez-vous. Encore une fois, pour ne pas engorger l'urgence. T'sais. Fait que résultat, on me réfère à un spécialiste, un ORL, parce que le généraliste ne voulait pas cautériser au niveau du nez, en m'expliquant qu'il y avait beaucoup de terminaisons nerveuses, sanguines, et qu'il préférait référer ça à un ORL. Alors, il me parle d'un ORL en particulier, parce qu'il y en avait deux qui exerçaient à la clinique où j'ai été. Et il me dit, vous devriez prendre rendez-vous avec cet ORL. Alors, je me rends à la secrétaire en question qui me dit, ben écoutez, si vous voulez un rendez-vous, on est en janvier, ça va être au mois de mars. Bon, ben là, mon Dieu, c'est loin. Et puis là, je m'informe, l'autre ORL, lui, quand est-ce que je peux le voir? Oh, en février.
Fait que résultat... On prend celui de février.
Ben oui, là, ouais. Je me dis, écoutez, là, c'est une affaire banale. Regarde, ça va y prendre 5 minutes, ça va être réglé, là. Fait que résultat, je vais là et c'est après l'avoir rencontré que j'ai compris pourquoi elle ne me l'avait pas référé. Alors, sans rentrer dans les détails, ben, écoutez, je vous dirais que je suis un patient qui aime beaucoup s'impliquer quand comprendre.
Mais c'est ce qu'on nous suggère de faire.
Et puis finalement, je ne retrouvais pas ça. Donc finalement, je suis retourné au sans rendez-vous, revoir encore une fois un généraliste pour finalement pouvoir reprendre un rendez-vous avec l'autre ORL. Et là, on était rendu au mois de juin.
Mais là, c'est le chien qui se mord la queue. Là.
Je veux dire, ouais,
on,
a, ouais.
on tourne en rond, on n'arrête pas. Donc, vous êtes là un an plus tard.
Absolument. Donc,
et vous saignez toujours du nez et de plus en plus. Puis là, ça vous fait mal.
Absolument. Puis je vous dirais que j'ai commencé à être vraiment très inquiet à partir du mois d'avril-mai. En mai, là, écoutez, j'avais des vaisseaux sanguins proéminents au niveau du nez. Tu sais, un peu comme...
Il se passait
l'image, tu sais, l'image d'un vieil ivrogne, là, qui a le... J'avais une forte pression. Il a fallu que je fasse réajuster mes lunettes parce que j'avais évidemment de l'enflure. Et là, j'étais là, je dis, voyons, ça n'a pas de sens, ça, là. C'est pas normal. Évidemment, je m'en doutais. Je pensais pas au cancer spécifiquement à ce moment-là encore.
Jamais vous y avez pensé jusqu'à ce qu'on vous donne le diagnostic?
Jusqu'à ce que je retourne voir la deuxième ORL qui, elle, m'a dit, écoutez, M. Kerouac, c'est très inquiétant. Je ne ferai pas de cautérisation avant d'avoir fait une biopsie. Parce que c'est un... Bon, enfin, c'est un abcès. Et puis, j'ai aucune idée de la nature, il faut le savoir. Alors, elle pratiquait à l'hôpital, pas très loin, l'hôpital de Verdun. Et elle me dit, écoutez, j'aimerais vous voir quelques jours plus tard, là. Et moi, je travaillais de nuit. Fait qu'elle m'avait dit, je vous donne le premier rendez-vous le matin. Alors, j'étais là. On a fait une biopsie 2 semaines après. En fait, c'était le 28 juin. Donc, dans 2 jours.
Ouais.
C'était il y a 2 ans. Qu'on m'a annoncé que j'avais une tumeur cancéreuse au niveau... C'était au niveau du vestibule nasal. Alors, elle m'a pas... Elle a référé immédiatement mon dossier à des spécialistes, évidemment, là, dans un cas comme ça. Là t'embarques sa voie rapide, comme on dit. Là.
Ouais, c'est ça.
Là, c'est plus... Là, t'es plus sous l'accotement, là. Ça traînera pas. Heureusement, d'ailleurs. Mais encore là... Il y a des choix difficiles qui vont venir et qui viennent.
Et le choix, c'est des traitements de très forte dose de chimiothérapie.
De radio.
De radiothérapie, ouais. Pardon. Ou l'amputation du nez.
Oui, et qui peut aussi être suivi de radiothérapie.
Là, quand on vous a dit... Ça,
mais
c'est
en moins
les
forte
deux,
dose.
Ouais, les deux possibilités, a priori... Moi, j'imagine même pas me faire dire ça, mais... Pour moi, là, l'imputation, ça n'aurait pas été possible. C'est comme pas une avenue.
Ben, écoutez,
vous, ça l'a été.
Je vous dirais que ma première option, je suis quelqu'un qui... Ben, je suis assez analytique, mais j'aime prendre des... Mais malgré tout, j'ai changé. J'ai fait des choix différents. Ma première option, c'était des traitements massifs de radiothérapie. Donc, pas d'amputation. Les risques, les chances de succès étaient moindres, évidemment. Mais je me voyais pas, là, on me dévisageait. Là. J'étais comme, à quoi va ressembler mon avenir, moi, là?
Vous avez déjà regardé Harry Potter?
Ah, mon Dieu, oui. Puis,
Voldemort, pas
Et puis, vous savez aussi...
On s'imagine pas comme ça, là.
Il suffit d'aller sur Google Images et taper amputation de nez, là. Et vous allez voir que c'est pas beau. Non, mon premier choix a été ça. Cependant... Je travaille dans un milieu où il y avait beaucoup de médecins résidents qui voulaient obtenir leur spécialité. Alors, il y en avait un, entre autres, parmi eux, qui était ORL. Et il me dit, tu sais, ils font des miracles en reconstruction maintenant. Il dit, puis comme il est du milieu anglophone, il m'a parlé d'un de ses enseignants. Et il m'a dit, lui, écoute, un grand spécialiste, il pratique au Jewish. Alors, j'ai dit, ben, je vais demander un second avis. Parce que le choix, la décision était trop importante. Alors, j'ai été référé à l'hôpital général juif. Et à partir de ce moment-là, j'ai rencontré là-bas un radio-oncologue, ORL-oncologue. Et puis, Évidemment, ils sont très avancés en matière de reconstruction, on ne se le cachera pas. On m'a expliqué toute la procédure qui est... C'est quand même... C'est pratiqué fréquemment.
Incroyable. On ne savait pas ça.
Ben non, pas du tout. Et puis, on se doute, est-ce qu'on se doute vraiment qu'il y a tant de gens? Mais c'est sûr que quand tu es là, tu vois pas mal ça. Hein? Mais oui, il y en a beaucoup.
C'est incroyable.
Et on m'a dit, écoutez, ils font... Bon, je ne vais pas, sans rentrer dans les détails, ils font ce qu'ils appellent un flip. Là. Ils utilisent la peau du front pour refaire un nez avec, avec une côte en guise de septum. Donc, ton septum avant, là, il la sculpte, il est vissé.
Fait qu'ils ont pris une de vos côtes?
Non, ils l'ont pas fait. C'est okay. Ce que j'allais faire.
Okay.
Hein, je vous disais, là...
Oui, c'est ça, au niveau de la reconstruction faciale. Parce que là, c'est, vous, c'est une prothèse.
Mais j'allais vers ça. Okay, j'allais vers ça, moi, ouais. Là. Et puis là, donc, je dis, OK, c'est parfait. J'accepte cette option-là. Mm-hmm. Je sais que ça va être difficile. Alors, on m'opère le 15 septembre. Et déjà, il y avait une progression de la tumeur cancéreuse. Là. Au 15 septembre, là, ça avait attaqué le septum extracrânien. Ça, c'est le cartilage qu'on a tous. Là.
La pointe du nez.
Oui, exactement. Ouais. Ça rentre à l'intérieur donc de la cavité nasale. Et on m'opère, résultat, suite à ça, on m'a amputé. Amputation de toute la partie externe du nez. Et une partie un petit peu de la peau autour de la joue.
Donc, là. Ça veut dire, est-ce que vous aviez comme un trou en plein milieu du visage à ce moment-là?
Oui, absolument.
Vous vous êtes regardé?
Pas la première journée. En fait, ça m'a pris quelques jours avant que je me regarde dans un miroir. J'allais faire changer mon pansement au CLSC. Les infirmières reculaient deux pas là, quand ils me voyaient. Ils n'avaient jamais vu ça. La totalité d'entre elles, ils avaient déjà vu d'autres cas grave, là, mais il n'y avait aucune idée comment faire un pansement.
Un pansement de nez, ben oui.
Ben écoute, je veux dire, c'est pas... Et résultat, à toutes les fois que j'y allais, j'avais une infirmière différente qui essayait différentes choses, puis finalement, à un moment donné, je me suis tanné parce que je ne pouvais pas conduire. Hein. Moi, il faut savoir que je porte des lunettes, je suis myope. Alors, pas de nez, pas de lunettes, je ne conduis pas. Alors, tous les jours, vous imaginez, demander... à ce moment-là, c'était des gens de ma famille... qui me véhiculait tous les jours pour aller au CLSC. Et puis, finalement, à un moment donné, je me suis tanné. J'ai dit, regarde, écoute, je vais faire ça de la maison. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Puis, un changement, ça prenait 30-40 minutes environ.
Changer votre pansement.
Ah oui, à tous les jours. Puis là, c'est la difficulté de se dire, bien, je vais prendre une douche. Essayer de prendre une douche, pas de nez. Il faut savoir que...
Mais l'eau, c'est comme... Bien, l'eau rentre à l'intérieur. Vous vous étouffez?
Oui, absolument, parce que...
Comment vous... Puis là, si vous avez... je sais pas si vous faites des allergies saisonnières ou ne serait-ce qu'un rhume, comment ça marche?
Heureusement, bien, j'ai eu un rhume depuis ce temps-là, il y a pas très longtemps, en fait, au mois d'avril dernier. C'était mon premier rhume. Je l'anticipais avec un peu d'angoisse, là. Bien, je peux vous rassurer tout de suite, t'as pas le nez bloqué.
Oh mon Dieu!
Non, mais
quand je vous dis qu'il était drôle. Non, mais non.
Mais c'est vrai.
Toutes les sécrétions, mais les sinus, là, ça va
où? Oui, bien, en fait, ils se déposent dans le fond de la cavité nasale. Ça exige un nettoyage qui est plus fréquent, évidemment, plus long. Et puis moi, ben, je ne peux pas moucher. Quand j'ai mon épithèse, en fait, je ne peux pas moucher.
L'épithèse, c'est la prothèse du nez.
Ouais,
c'est un nouveau nom qu'on apprend.
Ben, en fait, toutes les prothèses du visage sont des épithèses. Ouais. Toutes prothèses au-dessus du cou. Mm-hmm. Alors, ça peut être un nez, un œil, une oreille, une joue, une partie de mâchoire. Il y a des choses. Et puis, vous savez, moi, c'est tout simplement un nez. Là. Moi, j'ai vu des cas, mon Dieu.
Tous des cancers de peau.
Ah oui.
Mais vous, est-ce qu'on vous a dit, est-ce que vous étiez le genre de personne, Mathieu, à être au soleil, pas de protection?
Pas du parce tout. Que... D'ailleurs, le type de cancer, c'est en fait, on appelle ça un carcinome épidermoïde.
Ouais.
C'est pas dû aux rayons ultraviolets, pas du tout. J'ai lu quelques recherches là-dessus. On parle de beaucoup de choses. Au niveau de l'alimentation, mode de vie. Mais, tu sais, honnêtement, quand tu parles à ton médecin, il va te dire, regarde, écoute, je ne sais pas. Ils savent pas.
Mais non, mais c'est ça.
Ils savent pas.
Puis dans 10 ans, on va se rendre compte que c'est peut-être ça pareil.
Mais tu sais, c'est pas comme le cancer du sein ou du poumon où vraiment il y en a beaucoup. Donc évidemment, il y a plus de recherche, il y a plus de travail consacré à ça. Et puis c'est normal.
En tout cas, évidemment, bon, là, nous, on est à la radio. Je peux seulement décrire votre nez à ceux qui nous écoutent. Et sincèrement, en vous regardant, ma première action, c'est je cherchais la prothèse. Et c'est vrai qu'on regarde beaucoup le nez hein, quand on parle aux gens.
Ben oui.
En fait, on regarde les yeux.
C'est pas mal le centre de notre visage,
pas mal,
hein, Isabelle?
Oui, c'est ça. Mais, souvent, mais on regarde le nez, on regarde la bouche. Et sincèrement, ça, c'est pas, on se voit, ça se voit pas du tout. On voit pas, on se dit pas, oh mon Dieu, Mathieu, il y a une prothèse de nez.
Oui, ouais, ben c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire. Et ça, c'est une œuvre... C'est formidable, en fait. Le travail qui a été fait là-dessus et qui est fait pour des dizaines, des centaines d'autres personnes.
Et on va en reparler de celle qui vous a fait votre épithèse, Denis. On va s'arrêter ici, très courte pause. Après la pause, notre collègue ici, sommelière Jessica Arnois, elle aussi a eu plusieurs fois un cancer de la peau. Encore dernièrement, elle a dû se faire opérer. Elle va à son tour nous livrer son témoignage. Et bien sûr, on parle de ce sujet-là ce matin parce que, vous voyez, aujourd'hui, finalement, ils nous avaient annoncé de la pluie. Ben non, ils se sont trompés. Il fait super beau. Et on serait tenté de ne pas se protéger. Moi, si je peux, vous ne serait-ce que vous encourager à mettre de la 60 dans votre visage, ça serait pas mal ça qu'il faudrait mettre. Mathieu, en met-il de la crème?
J'ai un beau chapeau, là.
Voilà, c'est ça. Et mettez-vous un chapeau. Bref, il faut faire attention à notre peau. C'est notre organe le plus grand organe du corps. Tout de suite après la pause, dont Jessica va nous parler de son expérience. Et nous aurons également le docteur Christiane Laberge qui va nous parler, elle aussi, des moyens de prévenir le cancer de la peau, qui est ce cancer, je vous le répète, qui prend de plus en plus d'ampleur. Le tiers de tous les nouveaux cas de cancer au Canada, ce sont des cancers de la peau. 514-790-9850 pour nous joindre. Si vous avez vécu ce genre de choses également, dites-nous-le. Si vous avez des questions tout à l'heure avec notre médecin, bien sûr, ce sera l'occasion de les poser. À tout de suite. On parle du risque accru aujourd'hui, en 2019, de développer un cancer de la peau. Je ne veux pas vous effrayer pour rien, mais si je peux vous inciter à y penser au moins, puis en vous le disant, je me le dis moi-même parce que j'ai tendance à virer folle quand les rayons de soleil arrivent puis à ne pas me protéger assez. Et sincèrement, après avoir fait cette émission aujourd'hui, je suis sûre que je ne verrai plus le soleil de la même façon. J'espère que vous aussi, vous aurez l'occasion de plus vous mettre des protections solaires. Il faut le faire. Jessica Arnois, mon invitée, a entendu bien sûr le témoignage de Mathieu Kirk qui a dû être amputé du nez en raison justement d'un cancer de la peau, même s'il n'est pas officiellement relié directement à l'effet des UV. Il en reste pas moins que les cancers de la peau prennent de plus en plus d'ampleur. Jessica me disait dernièrement qu'elle avait dû se faire opérer à nouveau. Elle était avec nous parce que je trouvais que son témoignage était intéressant dans le contexte de notre émission d'aujourd'hui. Bonjour, c'est Jessica.
Bonjour.
Alors bien sûr, une sommelière, ça a besoin de ses papilles gustatives, mais ça a besoin de son nez. Hein?
Oui, tout à fait. C'est ça que je pensais tout à l'heure. Le nez, hey, ça m'a touché beaucoup le témoignage. On s'y attend tellement pas, là, puis tout d'un coup, pouf! Ouais. Il nous manque une partie de nous-mêmes.
Évidemment, toi, c'était pas le nez, c'était. Et ça a commencé il y a 10 ans environ. Tu as vu apparaître un grain de beauté. Tu t'es dit, tiens, un petit style Cindy Crawford, c'est pas
méchant. Exactement. Mais oui, je trouvais ça super cute, vraiment. Je faisais rien avec ça, mais. Il me piquait.
C'était où? Il était où? Au-dessus de ta lèvre, hein, je pense.
Oui, pareil comme Cindy Crawford. Ouais. Donc, j'avais toujours trouvé ça donc joli sur Cindy. Puis quand ça s'est apparu, j'ai dit, oh, wow, c'est cool. Tu sais, j'ai un petit grain de beauté. Et ma meilleure amie d'enfance avait une amie qui a eu le cancer de la peau. Et elle me connaît depuis que j'ai 12 ans. C'est une psychologue. Et on ne s'est jamais chicané de notre vie. Et c'est la première fois qu'elle prend le téléphone puis qu'elle me dit, là, Jess, ça suffit. Mais ça suffit quoi? Elle dit, je veux absolument que tu ailles te faire vérifier le grain de beauté. Puis là, moi, je fais une coupe de blagues. Puis là, elle n'arrive pas. Puis là, elle me dit, si tu y vas pas, j'y vais avec toi. Je sais que tu prends pas soin de toi. Donc, ça, c'est pas drôle. C'est le cancer de la peau. Puis là, je dis que tu es alarmiste, franchement. C'est juste un beau grain de beauté. Elle a tellement insisté que je suis allée pour elle, par amour, amitié. Puis c'était le cancer de la peau. Effectivement, elle avait raison. Aïe. Donc, ça m'a. Au début. Je suis allée voir un excellent dermatologue. Je ne suis pas passée, j'ai pas attendu, j'ai payé.
Ah,
donc,
c'est ça.
J'ai payé, oui, c'est Dr. Gaston Dumais. Il est excellent, c'est un dermatologue privé. Donc, j'ai passé rapidement. Puis, j'y allais vraiment, tu sais, candidement, je me dis, bof, c'est vraiment rien. Et quand il a dit, oui, ça, j'aime pas ça, il l'a gratté, il a fait une biopsie. Ça fait 10 ans de ça. C'est quand j'ai eu mon enfant. C'est là que ça s'est déclenché. Il faut savoir que ça prend vraiment du temps. On calcule environ 15 ans. Le docteur va pouvoir donner plus d'informations, mais c'est ce que j'ai appris. Et il m'a juste brûlé au laser. C'était rien, c'était tout petit, ça faisait un petit point rouge et c'est parti. Mm-hmm. On a eu deux récidives, il a fait ça deux fois.
Ah, c'est... Ça, ah ça, ça oui, okay. Deux récidives, ouais. À tous les combien il fallait que tu...
Ça m'a pris, mais on va calculer... Ma fille a 10 ans, on va calculer 2-3 ans par récidive, okay, si on veut. Ah, puis ouais. Il commence petit, il repousse, puis il faut savoir que je le trouvais mignon, là. Mm. Donc, ça, c'est important à dire. Et la troisième fois, qui est juste avant mes 40 ans, donc un beau cadeau pour me rappeler de prendre soin de moi, et c'est pour ça que je le dis ouvertement à tous. La troisième fois, Dr. Dumais, il dit, là, j'aime vraiment pas ça. Je vais t'envoyer voir Dr. Cole. Fait que j'arrive sur la chaise de Dr. Cole, il me pique, ouf, là, je trouve que c'est pas drôle, là, parce que c'est la première fois qu'on me pique, et il m'enlève un cube dans le visage, d'un centimètre par un centimètre. J'ai tellement pleuré, Isabelle, là, les larmes coulaient, je disais pas un mot, puis tout ce qui se passait dans ma tête, puis je peux juste penser à votre invité, à Mathieu qui perdait son nez. Moi, je perdais, faut comprendre, là, que c'est entre ma bouche et mon nez, puis là, je le sentais arriver à ma bouche, c'est mon travail, c'est ma vie, puis là, les larmes, ils coulaient, puis là, je voyais que cette partie de mon visage-là, c'était fini à vie, là. Puis je t'émotive en parlant parce que c'est rien en même temps, je suis pas narcissique, je m'en fous, j'aime bien mieux enlever le cancer que de l'avoir, mais j'étais juste mentalement pas préparée à ça. Et quand ça a terminé, il fait la biopsie sur place, c'est ça qui est génial. Là, j'avais un trou dans le visage. Puis lui, c'est pas un chirurgien plasticien. C'est un dermatologue expert en cancer. Donc, il faut savoir que c'est basocellulaire.
Ouais.
Donc, c'est pas un cancer.
C'est un carcinome basocellulaire, c'est ça? Oui. C'est apparemment les plus fréquents, docteur Labèche pourra nous préciser ça. Oui. On dit qu'ils sont évidemment pas très dangereux comparativement à d'autres qui peuvent causer la mort, là, comme les mélanomes malins, par exemple.
Exactement, si j'avais rien fait, que j'aurais rien fait, si Catherine, mon amie, ne m'avait pas prévenue, puis obligée à prendre soin de moi, parce que je le jure, j'aurais rien fait.
Ouais.
Ça aurait été tout dans ma joue, et là, c'est ma joue qui aurait passé.
Voilà.
Donc là, on commence.
Parce qu'ils finissent par prendre plus d'espace, c'est quand c'est à la force de revenir, ils prennent de plus en plus de terrain, c'est ça? Ils gagnent du terrain.
Exactement, ils se renforcissent, un peu comme des racines d'arbres, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça prend de l'ampleur.
Ouais.
Et là, ça m'a fait vraiment peur. Et il faut savoir aussi que je suis très bien entourée, heureusement, mais j'aurais rien fait avec ce trou-là. Je l'aurais laissé comme ça.
Ouais.
Donc, ils mettaient du collagène. Puis moi, faut que j'anime. Puis tu sais, je point de vue esthétique, là, tu sais, moi, j'aime ce qui est honnête dans la vie. Donc, je continuais à animer. Ça me faisait mal parler, mais j'expliquais ça. Puis finalement, une autre de mes amies est arrivée. Puis elle m'a dit, Jess, là, c'est de la chirurgie plastique là, qu'il faut que tu fasses. Et j'étais très réticente à l'idée de le faire. Ils ont fait ce qu'on appelle un lambeau. Donc, finalement, j'ai juste une cicatrice. C'est magique. Stéphanie Olivier qui a fait ça en deux temps, trois mouvements. Et j'étais nerveuse, là. C'était fou. Là,
je disais, non. Quand, ça, Jessica?
Ça fait une semaine et demie.
Ah, c'est ça.
Ça vient juste de se passer.
Oui, la dernière fois que je t'ai vue, tu avais un pansement au-dessus de la lèvre.
Oui,
c'est ça.
J'ai une grosse... Ouais. Oui, ça, c'était le pansement de la première opération.
Ouais. Et là, donc elle t'a refait ce bout de visage-là.
Oui. Puis là, tu sais tellement pas ce que tu vas avoir là. Puis ils te disent, bon, mais écoute, c'est soit que tu as un gros trou inégal dans le visage ou tu vas avoir une cicatrice. Puis là, tu as des choix de cicatrices, comme Frankenstein. Donc, une cicatrice droite, une cicatrice en T, en triangle. Et j'ai pas dormi. Je suis restée au lit 48 heures en me posant des questions. Je peux juste penser si c'était mon nez, là.
Ouais,
là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Puis ma première réaction, c'est pas d'intervention. On laisse la vie comme elle est.
Ouais.
Puis après ça, j'ai dit, fais confiance à la science. Bref, Stéphanie a été fantastique. Je vais avoir...
C'est une chirurgienne plastique, Stéphanie Olivier?
Oui, et j'ai passé dans le système public. Donc
là, t'as pas payé pour ça, t'es passé tout de suite. Bon.
Non, puis j'ai eu un traitement. Écoute, c'est pas le fun là, d'avoir une aiguille dans le bobo, on s'entend.
Ouais.
Mais je me disais, je peux juste m'imaginer. Tu sais, puis j'étais avec plein de gens qui avaient le cancer, évidemment. Puis sais-tu qu'est-ce qui était drôle? On riait tous. On a eu du fun. T'sais, un avait une patte sur un œil, l'autre sur l'oreille. J'ai dit, on est toutes normales.
Mais Jessica, je pense que le message que tu veux passer aujourd'hui aux auditeurs et auditrices, c'est que toi, tu as pris ça à la légère. Puis tu t'en veux aujourd'hui. Tu m'as dit ça, tu m'as dit, j'ai été un peu nounoune parce que avoir su.
Oui, je m'en souviens, j'étais dans le désert, puis j'ai pas mis de crème. Puis tu sais, qu'est-ce qui m'est passé dans ta tête? Je faisais un tour du monde, j'ai fait 25 pays. Fait que la crème, c'était cher, puis c'était compliqué de voyager avec ça. Puis je me suis dit, de toute façon, tu penses-tu qu'une crème va vraiment me protéger? C'est ce que je me suis dit, et je me souviens, hein, j'étais ado de chameau dans le désert, je me souviens très bien d'avoir dit ça dans la tête il y a 15 ans. Mais là, je paye, ça s'est déclenché avec ma fille. Donc, pourquoi je vous parle aujourd'hui, c'est que moi, j'ai eu la chance d'être bien entourée. Si mon ami ne m'avait pas prévenu et m'obligeait à prendre soin de moi, donc premièrement, soyez bien entourée, écoutez vos proches, faites confiance aux médecins. On n'est pas médecin. Faites confiance à la vie aussi, évidemment, mais mettez donc de la crème. Moi, je mets de la 60 et je me promène maintenant avec un bâton. Et je mets ça dans le visage de ma fille, sur moi. Ouais. C'est un petit bâton qui est facile à voyager pour les voyageurs. Là. Du spray, de la crème. Alors, je mets tout, du chapeau. Puis là, je mets même un petit plaster, comme un petit...
Et toi, il faut que tu me protèges encore plus. Hein? Ben oui, tout à fait, tout à fait. Jessica Arnois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci bien. Puis on t'écoute, bien sûr, sur les ondes du 98.5, tes bons conseils de vin. Il faudrait que tu viennes, d'ici la semaine prochaine, là, pour nous parler de tes choix... vinicole pour l'été, qu'est-ce que t'en penses? Je te fais une invitation comme ça, live.
Virginie, parce que là, je suis là en ce moment et c'est merveilleux.
Bon, ben écoute, dès ton retour, ça va me faire plaisir, nos auditeurs également. Merci beaucoup, Jessica. Incroyable, son histoire. Quand je vous dis, tu sais, on est très laxiste, on n'y pense pas, puis là, soudainement, un médecin te ramène à la réalité. Justement, on parlait de ça, le docteur Christiane Laberge sera avec nous tout de suite après la pause. Elle va sans doute nous dire que chaque coup de soleil augmente de 16 fois votre risque de cancer de la peau. C'est pas rien. Si vous voulez nous joindre, bien sûr, et nous dire si vous avez vécu ça, si ces histoires de témoignages vous touchent. Et si vous avez des questions, ben c'est le 514-790-9850, sans frais partout. 1-866-790-9850. À tout de suite. Incroyable, hein, quand même, ces histoires qu'on vous raconte ce matin. Mathieu Kirouac, donc, mon invité ici en studio, qui a été amputé du nez en raison d'un cancer de la peau. Il a aujourd'hui une prothèse qui a été, vraiment été faite sur mesure pour lui. Jessica Arnois, également, qui avouait qu'elle elle regrettait beaucoup sa légèreté par rapport aux rayons du soleil. C'est le moment de faire entrer notre docteur Christiane Laberge. Bonjour, Christiane.
Bonjour.
Le cancer de la peau le plus courant, on l'oublie. C'est comme si on ne le savait pas, finalement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'en méfier de plus en plus, là.
C'est parce que c'est banalisé. Tu sais, par exemple, t'as grand-papa qui joue au golf, qui a joué au golf toute sa vie, mais qui a moins de cheveux sur le dessus de la tête, qui, bof, une calotte, on portait pas ça dans le temps. Puis ça fait tout des petites croûtes, hein, rosées, puis des fois beige, puis des fois irrégulières, puis tout à coup, oups, il s'est fait enlever 2-3 cancers de peau, tiens donc, toi. Et on le surveille après ça chaque année parce qu'il a été exposé au soleil. Les fermiers qui travaillaient en manches courtes en ont souvent sur les mains, sur les bras.
Sur les bras. Les camionneurs, les bras, le bras dehors.
Les camionneurs, le bras du camionneur dehors.
Ben oui.
Alors ça aussi, les gens étaient sur sans crème solaire à l'époque. Et il faut savoir que, comme dit Jessica, c'est 15 ans en arrière qu'on recule là, pour le coup de soleil, pour l'insolation, pour l'exposition non protégée. Puis si on recule 20 ans en arrière, on avait des protections 4. Combien de personnes de 50 ans et plus se sont fait griller avec l'espèce de patate au four, là, tu sais, la membrane d'aluminium que tu mettais pour refléter encore plus les rayons. Puis en plus, tu avais de l'huile de coconut. Ça sentait tellement bon, hein?
Ouais.
Mais ça, zéro protection. Alors les gens, ça les grillait, oui. Et il y a encore aujourd'hui, Isabelle, des gens qui vont dire, « Ah, moi, je vais aller me faire, tu sais, je vais prendre un coup de soleil, puis après ça, ça va virer brun. »
Ouais.
T'en as encore beaucoup qui disent ça. Et
on
tu vas
est
dans
comme
le
ça. Ouais.
T'as encore des crèmes 4 et 8, là.
Oui, tout à fait. Ben oui.
Alors, les gens sont un peu inconscients.
Oui. Le cancer de la peau qui a triplé en 25 ans, Christiane, c'est à cause du soleil, c'est à cause de notre laxisme par rapport aux rayons, c'est un peu
beaucoup,
les deux?
Beaucoup. Tu vas me dire que Mathieu, il a eu un cancer de l'intérieur du nez. Il n'a pas exposé son intérieur de nez. Il y a des gens qui ont des cancers, des mélanomes entre les orteils. Ah. Et puis, on se rappelle de M. Bourassa qui l'avait eu ou le dos par son nom.
Ouais.
Donc, il n'est pas exposé au soleil non plus.
Ouais.
De telle sorte que ce n'est pas que le soleil. C'est un changement génétique, mais le soleil, par ses UVA surtout, va modifier ta génétique au niveau, va modifier ton chromosome au niveau de ta cellule, de peau, puis elle va se mettre à se multiplier en folle. Elle va perdre son plan d'urbanisme.
Ouais. Évidemment, il y a plusieurs types de, oui, de kératose. Il y a des gens qui nous écoutent qui se disent « Oh mon Dieu, j'ai découvert une tache. Est-ce que je devrais m'inquiéter? Est-ce que tous les grains de beauté devraient nous inquiéter? » Comment savoir si... comment reconnaître les signes, peut-être, avant-coureur d'un début de cancer de la peau ou au moins d'une kératose qu'il faudrait, pour laquelle il faudrait aller consulter?
La kératose actinique, c'est souvent celle qui est précancéreuse. Ça donne des plaques qui sont rosées. Quand tu touches, c'est rugueux. Et souvent, ça va donner une plaie qui n'est pas égale. Donc, elle va être raboteuse un peu, des fois. Le basocellulaire va être souvent raboteux autour, va être de couleur asymétrique. Ça veut dire que ça ne sera pas la même couleur toute la lésion. Un grain de beauté classique, là, c'est la même couleur. C'est très... une bordure très, très régulière. C'est A, B, C, D. Hein? Donc, tu regardes, c'est asymétrique. Si c'est une lésion qui est très ronde, en général, c'est un petit peu moins inquiétant. Si elle est toute boursouflée ou tu n'as pas de contour net, tu ne pourrais pas prendre ton crayon pour faire le tour. Ça devient comme une plage.
Ah oui.
Ça s'infiltre dans la peau, c'est plus suspect. Si la bordure est régulière ou la bordure est irrégulière, si la couleur est homogène, ton grain de beauté classique, il est brun. Ou brun pâle ou brun foncé. Mais dans la couleur des lésions, c'est souvent c'est non homogène.
Donc, très rouge ou noir, ça, c'est un
rouge avec du noir, puis du rouge foncé. Okay. Puis, et les grains qu'on appelle charcoal, là, l'espèce de gris-bleu, ça, c'est toujours suspect, toujours.
Oh, wow.
L'autre chose, c'est la dimension.
Dimension,
la dimension, il faut que ça soit en bas de 6 mm quand ça devient plus grand que ça et c'est asymétrique et que ça évolue.
Okay. Alors, asymétrie...
Que tu grattes, ça se refait, que tu grattes, ça se refait, tu grattes, ça se refait. C'est suspect jusqu'à preuve du contraire.
OK. Asymétrie, bordure, couleur, dimension, c'est ça qu'il faut regarder.
C'est ABCD. Ça, évolution.
Évolution. ABCDE, ben oui, finalement, oui. Évolution. Il y a Sylvie qui me dit qu'elle avait un grain de beauté sur l'orteil du milieu.
Ouais.
Ça s'est avéré être un mélanome. On a dû m'amputer l'orteil. Oui. Moi qui adorais les sandales, j'en ai donné 35 paires à la suite de mon amputation. Évidemment, d'un orteil, pas d'un pied, mais imagine quand même, c'est ton orteil du milieu. Là, c'est...
Ben, tu regardes, moi, j'ai découvert elle faisait un examen gynécologique sur le côté de la cuisse de la madame, qu'elle avait une lésion suspecte. Et la lésion, je te jure, elle avait à peu près 3 mm. Et la chirurgie du mélanome, ça a pris à peu près 10 mm carrés, je te dirais, avec une profondeur d'à peu près 2 à 3 mm.
Parce que ce qu'on voit, puis il y a ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça?
Oui,
hein?
oui. Le mélanome, là, c'est... T'as une petite affaire, puis t'enlèves des gros morceaux là, de peau pour essayer d'avoir des marges qui soient complètement saines. Contrairement au basocellulaire, le basocellulaire ne se métastasie pas. Il va pas donner des lésions dans le foie, dans le cerveau, dans le poumon, comme par exemple le sein ou la prostate. Mais il va envahir plutôt localement. Mais le basocellulaire, en général... T'enlèves ça, c'est comme le cancer du Narigan. T'enlèves ça, c'est terminé. Alors que les autres, les spinocellulaires, sont plus infiltrants. Et c'est là où on va avoir des grandes cicatrices au niveau du visage. Mais heureusement, nos plasticiens sont extraordinaires. Heureusement qu'ils ne font pas juste du Botox puis qu'on arrive à les rejoindre.
Oui, voilà, mais il y a bien des gens qui me disent... T'as entendu le témoignage de Mathieu Kerouac qu'un an avant de pouvoir trouver un médecin qui lui fasse passer une biopsie qui a fini par amener ce diagnostic. Je veux dire, un an, puis un dermatologue...
Excuse-moi, je te parle là-dessus. Parle-moi là-dessus, si tu veux. Là. Moi, là, quand il y a un patient qui a quelque chose qui ne résout pas, là, hein, ça récidive tout le temps. Bien, nous autres, on ne le sait pas au téléphone que ça récidive puis que c'est pire. Tu comprends? À moins que la personne ne nous le dise.
Mais Mathieu l'a dit tout à l'heure. Mathieu, il est encore là. Il l'a dit qu'à force d'entendre, puis ça, c'est vrai, Christiane, on s'en est souvent parlé, toi et moi, à force de se faire dire, allez pas n'importe comment à l'urgence, souvent, vous y allez, ça ne sert à rien, vous nous faites perdre notre temps.
La là, conduite on se dit, on va attendre. Bien. Il n'y avait pas d'affaire à aller à l'urgence. Il y avait d'affaire à aller voir le médecin.
Ouais.
Puis le médecin, quand il va à la même clinique, et dans le dossier antérieur, on voit que à la même clinique, monsieur est venu il y a 2 mois.
Médecin
ou
de famille, Mathieu?
Mais en fait, non, d'abord. J'avais pas de médecin de famille à ce moment-là, j'en ai un maintenant. Mais aussi, une chose qui est peut-être bien précisée, c'est qu'avant mon rendez-vous en juin, quand j'ai vu la deuxième ORL, là, celle qui m'a fait ma biopsie, j'avais appelé sa secrétaire à plusieurs reprises, à au moins deux ou trois reprises, en lui disant, écoutez, là, je suis vraiment inquiet. Là. Tu sais, quand je vous dis avril, mai, là, je suis vraiment inquiet. Là. Ça va pas bien. Là. Est-ce qu'il y a moyen de devancer mon rendez-vous? Pouvez-vous me trouver une place?
Ça va pas être possible.
Non. Ben, écoutez, on vous appellera si on a une place qui se libère.
C'est ça. Ben là, puis... Christiane Laberge, j'en ai beaucoup là-dessus. À dire. Là. Oui.
Je vais donner un truc là-dessus. OK? Si vraiment, puis là, je parle pas pour des gens qui sont inquiets parce qu'ils ont des troubles anxieux majeurs. Ouais, je parle de quelqu'un qui a vraiment une inquiétude objective avec une évolution qui n'est pas positive. On peut écrire au médecin personnel et confidentiel, à celui qu'on est auquel on est référé.
Mais comment?
Et ouais. On peut, hein?
Comment?
Comment? On ouais. Prend un papier, un crayon, puis on écrit... Moi, je suis Mathieu. J'ai pris rendez-vous avec vous pour le mois de juin. J'ai été référé par telle personne. Mes symptômes sont en aggravation actuellement. Je saigne.
Non, mais le papier, on vole pas.
Le courriel. Ouais.
T'envoies ça par la poste avec un timbre.
Mon Dieu.
Oui, je le sais. Oui, regarde, on ne reviendra pas là-dessus. Moi, je te donne les moyens qui marchent.
Oh, oui.
Je
veux des moyens qui marchent. C'est bien. C'est bien.
Mais.
Tu peux te coucher aussi, tu te couches. Tu fais la grève de la faim, tu te couches devant la porte du bureau du médecin.
J'envoie une lettre personnelle et confidentielle. Ouais. On est obligé de prendre position quand on est au courant de certaines situations.
Ah, d'accord, je comprends.
Donc, ce qu'on ne sait pas, on ne le sait pas.
Ouais. On nous dit que ce qu'on ne sait pas, ça nous fait pas mal, mais bon.
Non, mais ce qu'on ne sait pas, on ne le sait pas. Ouais. Tu sais, la personne qui te... Tu as des gens qui disent « Ah, j'ai eu mal au cœur, c'était écœurant, j'ai vomi. » Deux cuillères à soupe, puis l'autre qui a vomi deux chaudières.
Ouais, non, c'est ça. Hey, Christiane, bouge pas, il faut vraiment que j'aille à la pause, puis là, nos lignes sont pleines. Fait qu'on va aller voir ce que peut-être les gens ont des questions après la pause. À tout de suite, tout le monde. On parle du cancer de la peau et des risques. Alain, vous en avez eu un, justement, vous. Un cancer, je crois, même du nez.
Oui, bonjour Isabelle, bonjour Laberge, ça va bien?
Oui, allez-y, Alain, il nous reste 5 minutes vraiment pour tout le monde.
Oui, écoutez, moi, j'ai rencontré le docteur Cohn et puis j'ai été opéré. Au nez, j'ai eu une greffe de la peau grosse comme un 5 sous sur le nez. Wow. J'ai eu 22 points de suture et puis ça s'est réparé vraiment bien dans l'espace de 2 mois. J'ai eu une première intervention pour enlever un bouton que j'avais sur le nez et puis à la deuxième fois, on a fait la greffe et puis on a mis le morceau de peau puis on l'a cousu. Et puis, je suis allé au CLSC faire changer les pansements régulièrement, 3 fois par semaine pendant 3 semaines.
Et c'est un cancer, vous diriez, Alain, dû au soleil, dû à une exposition non protégée?
Dû au soleil, dans ma jeunesse, j'ai pris trop de soleil.
Ouais.
Et puis là, c'est correct maintenant.
Ouais. Et donc, si je comprends bien, vous avez une greffe de peau sur votre nez. Vous avez l'essentiel quand même de votre nez à vous, là.
Oui, j'avais un bouton sur le nez qu'ils m'ont enlevé et puis ils ont pris une greffe sur la joue. Incroyable. Et puis ils l'ont mis sur le nez et ils l'ont cousu.
C'est fascinant. Merci beaucoup, Alain. Merci bien de votre témoignage. Avec nous, Louise. Bonjour, Louise.
Bonjour. Alors moi, je vais faire ça rapidement. On me dit que vous avez peu de temps. Écoutez, moi, j'avais une tache sur le côté du nez et je pensais que c'était mes lunettes que je portais qui faisaient cette tache-là. Ça arrivait exactement au même endroit. En visitant le dermatologue pour mon mari, c'est lui qui m'a dit « Écoutez, c'est pas normal, on fait une biopsie, carcinome basocellulaire. » On m'opère, on fait une chirurgie de Mohs au CHUM de Montréal. On supposément qu'on enlève tout ça. On m'envoie par la suite chez une plasticienne, mais dans un réseau privé, mais je ne paye pas. Maintenant, je me ramasse avec toujours la tache. Ça va faire 1 an en juillet. Je ne sais pas si le cancer est parti. Je ne peux pas retrouver le médecin parce qu'on me dit qu'il ne travaille plus au CHUM. Et la plasticienne me dit maintenant que je cicatrise mal et que ça va prendre des traitements au laser qui sont coûteux. Oh. Alors, voilà ma situation. Fait que je pensais au docteur Laberge tantôt. Je me dis, je fais quoi, moi, pour me retrouver?
Ben justement, on va lui demander aux Christiane. Christiane Laberge était toujours avec nous. Doc Laberge, rapidement, pour peut-être Louise.
Je vous dirais, théoriquement, c'est un suivi. Donc, ça devrait être le département de plastie de l'hôpital qui assure le suivi, parce que c'est un suivi anormal. Mais par contre, je ne vois pas la lésion et je ne sais pas. Vous pouvez passer par votre médecin de famille qui doit maintenant passer par le centre de rendez-vous hein, le Centre des répartitions des spécialités du Québec, le CRDS, doit envoyer un formulaire pour dire que la plaie n'est pas guérie comme son suivi l'avait prévu et que vous demandez qu'il soit référé en plastie. Et à ce moment-là, votre médecin de famille va être capable, peut-être avec quelques téléphones ou avec en discutant avec la personne, d'obtenir un rendez-vous en plastie. Mais théoriquement, ce que je comprends, c'est que c'est un suivi de plastie. Ouais. Donc, ça devrait être fait par les gens qui ont fait la chirurgie primaire.
Aïe, aïe, aïe. Bonne chance à Louise.
Mais ça arrive souvent, ce site sous les lunettes. Les gens ne regardent pas, mais sous les lunettes, on confond souvent. Oh, c'est juste à mon appui de lunettes, c'est à cause de ça. L'autre chose, Isabelle, les gens qui ont des lésions dans le dos, qui sont célibataires, comment on fait? Bien, on prend des photos. On se ramasse un ami, puis on dit, regarde mon dos. Et si on a des petites lésions, on met en garde les ABCDE, et on dit, prends des photos avec une petite règle à millimètre, puis à ce moment-là, on va enlever, on va regarder l'évolution avec le temps. Donc, de prendre des photos, de faire prendre des photos, de les garder en archive, souvent, c'est un bon documentaire. Ouais.
Tu sais, tu dis, il faut aller voir son médecin de famille, même ceux qui en ont, et je suis bien placée pour le dire, ça ne veut pas dire que tu peux le voir, ton médecin de famille. Là. Moi, depuis que j'en ai un, je n'ai jamais autant moins été capable de le rejoindre. Fait que c'est un problème, parce que pour toute la question des suivis, ça se fait pas, mais enfin...
Théoriquement, même si tu as un médecin de famille qui fait partie d'un groupe de médecins de famille, un GMF, théoriquement, le GMF doit te donner 80 % de tes besoins dans l'année. Sinon, le centre sera pénalisé. Faut pas oublier que dans un GMF, les dossiers sont cumulatifs. Hein, ils sont pour tout le monde. L'accès est pour tout le monde.
On y reviendra sur toute cette question-là parce que je veux
juste
qu'on reparle.
C'est juste pour te dire que tu peux consulter.
Oui. Christian, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous avez une question, je pense.
Oui, j'ai une question. Moi, je suis originaire du Congo et j'ai eu cette conversation avec mon père il y a 2 semaines. Il m'a dit, c'est pas qu'il fait beaucoup trop chaud en Afrique désormais, mais c'est juste que ça lui rappelle la chaleur quand il était enfant. Mon père a maintenant 64 ans. Cependant, je suis noir. La plupart des gens là-bas sont noirs en Afrique centrale. Quel est le cas pour le cas de la peau, si Dr Laberge pourrait répondre à ça?
Ouais, pour les gens de couleur, Christian, c'est une bonne question, Christian, merci. Les gens de couleur sont peut-être moins à risque, mais quand même, ils doivent se protéger, je pense.
Bien, vous devez vous protéger dépendant de la longueur d'exposition. Il est clair que vous avez une protection de base qui est plus élevée que la nôtre parce que votre mélanine est plus élevée au niveau de la surface de la peau. Donc, vous avez une barrière qui est plus efficace. Mais c'est vrai que pour une exposition prolongée, vous allez avoir besoin probablement de crème, mais probablement aussi qu'une crème pour tout le monde, 30, c'est suffisant pour vous et d'en remettre peut-être moins souvent dépendant de votre exposition. Vous avez une meilleure... Votre peau pardonne plus.
Bon, alors c'est ça, je voulais qu'on y vienne. On
alors,
met de la 30.
Alors, Kidman, elle, ça ne va pas protéger.
Pour une peau blanche ou sensible, c'est minimalement de la 30. Et puis sur le visage, de la 60, 50-60?
Souvent, on va mettre de la 50 parce qu'elle est facilement accessible. Mm. Elle protège bien, elle n'est pas graisseuse en général. Donc, on va être content avec de la 50 pour le visage. Mm. Les endroits plus rudes, je dirais, les endroits à peau plus épaisse, 45 fait très bien l'affaire. Parce que de 45 à 60, tu vas monter d'à peu près 1-1.5 % de protection.
Bon, ben
d'accord.
Donc, puis
principe, on
en met
souvent. Mettre plus souvent.
Voilà. Hey, Christiane Laberge, merci, toujours un plaisir d'avoir le Doc Laberge pour nous éclairer. Mathieu Kerouac, merci beaucoup de ce témoignage.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Je pense que ça fait prendre conscience aux gens de beaucoup de choses. On aura l'occasion de se reparler, bien sûr, c'est promis, Mathieu. Merci beaucoup d'être venu nous voir.